C'est l'heure du journal avec vous, Camille Manière. Bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Il y a les dossiers qui unissent et ceux qui divisent. Nous débuterons ce journal à Taormina, en Sicile, où s'ouvre le sommet du G7. Les grandes puissances mondiales devraient montrer un front uni face au terrorisme de Daesh, nous dira Mathilde Imbert-y, mais ça promet d'être plus tendu sur le climat et le commerce mondial. Autant de sujets sur lesquels Donald Trump sera en première ligne pour cette première participation à un G7. Le président américain qui rentrera demain à Washington et y retrouvera la polémique sur ses liens présumés avec la Russie. Son gendre et conseiller Jared Kushner désormais au centre des soupçons. Précision à suivre avec Nadine Epstein. 105 civils tués à la mi-mars dans un bombardement américain sur Mossoul en Irak. Le Pentagone reconnaît sa pire bavure depuis le début de la coalition contre les djihadistes. Dossier suivi pour nous par Valérie Crova. Et puis en France, le pont de l'Ascension qui ne parvient pas à éteindre le début d'incendie autour d'Emmanuel Macron. Le gouvernement est-il crédible pour faire passer une loi de moralisation alors que le ministre Richard Ferrand est soupçonné de clientélisme? Ces simples dénégations ne suffiront pas, avertit le socialiste Olivier Faure. Nous reviendrons également dans ce journal sur cette découverte faite par les astronautes de la Station Spatiale Internationale. Ils ont trouvé à bord une bactérie encore inconnue sur Terre. Et puis l'invité de ce midi 30, c'est François Durpaire, historien spécialisé des États-Unis, avec qui nous tenterons de trouver une cohérence en matière de politique internationale après cette semaine qui a mené Donald Trump de Riyad à Bruxelles en passant par Rome et Jérusalem. Les grands de ce monde ont donc rendez-vous à Taormina aujourd'hui et demain. Sommet du G7 dans cette cité balnéaire de Sicile où les ruelles, nous dit-on, sont trop étroites pour la voiture blindée du président Trump. Ce qui est large également, c'est l'ordre du jour de cette rencontre. Nous sommes en ligne depuis la cité sicilienne avec Mathilde Imbert-y. Bonjour Mathilde.
Bonjour à tous.
Beaucoup de dossiers qui font l'actualité internationale en ce moment vont être abordés par les dirigeants des 7 pays les plus riches, des plus clivants, le climat, le commerce international. On va en reparler au plus consensuel, à savoir la lutte contre le terrorisme.
Oui, après l'attentat de Manchester, la lutte contre le terrorisme s'impose. Elle sera mentionnée dans la déclaration finale. Theresa May, Premier ministre britannique, devra prendre la parole devant ses collègues pour leur expliquer qu'il ne faut pas baisser la garde. Dès ce soir, Theresa May d'ailleurs sera de retour au Royaume-Uni. Elle a écourté son séjour ici. À noter que Emmanuel Macron, le président français, lors d'une rencontre bilatérale ce matin, lui a promis de faire tout son possible pour l'aider sur ce thème du terrorisme.
Et le consensus sera plus difficile à trouver sur la lutte contre le réchauffement climatique ou encore sur le commerce international. Le commerce, tout ça, ce sont des thématiques qui mettent clairement en porte-à-faux la position américaine et donc Donald Trump.
Oui, une position américaine réaffirmée de manière claire ce matin par le conseiller économique de Donald Trump. Il estime que le respect de l'accord de Paris serait handicapant pour la croissance américaine. Donald Trump a promis une décision à son retour d'Europe, pas avant. Pour rappel, l'administration Obama s'était engagée à réduire de 26 à 28% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2025. Donald Trump, lui, ne dévoilera pas ses cartes durant le G7. Ce n'est pas faute de la part des dirigeants européens de l'avoir sensibilisé à la question climatique lors de ses précédentes étapes sur le vieux continent. Mercredi au Vatican, le pape François a insisté sur ce point. Hier, au sommet de l'OTAN, Emmanuel Macron a également abordé le sujet. Quant au commerce international, deuxième principal point d'achoppement effectivement au G7, les États-Unis voudraient réviser leur position, en particulier sur le rôle d'arbitre de l'OMC. L'Europe, de l'autre côté, défend le multilatéralisme et Paris dit souhaiter un accord le plus ambitieux possible sur la défense de ce système multilatéral.
Enfin, Mathilde, un autre sujet qui s'impose en Sicile où se déroule ce G7, c'est la crise migratoire. Et là, les Italiens tentent de mettre le sujet sur la table.
Et quel autre pays que l'Italie pour mettre en avant le thème des migrations alors que les pays les plus riches échangent ici à quelques kilomètres. Des centaines de migrants sont en train d'être débarqués sur les côtes italiennes. Mercredi encore, un naufrage a fait des dizaines de morts, dont des enfants. L'Italie a invité en Sicile d'ailleurs les dirigeants de 5 pays africains, Tunisie, Niger, Nigeria, Kenya et Éthiopie, pour parler de lutte contre le terrorisme, mais aussi des causes des migrations. La crise migratoire devrait faire l'objet de quelques lignes seulement dans la déclaration finale. Délicat travail ici que celui de l'Italie, assembler différentes positions pour parvenir à un communiqué final qui ne soit pas une coquille vide. Paolo Gentiloni et le président du Conseil comptent œuvrer pour que ce G7 soit une réunion, je cite, utile.
Mathilde Imbert-y en direct donc de Taormina en Sicile. Merci à vous, merci à Jérémy Thuil également qui a assuré les moyens techniques de ce duplex. On l'évoquait à l'instant pour Donald Trump, c'est une première participation à un sommet du G7. Le président américain très attendu début termine en Sicile. Cette semaine de tournée internationale sur laquelle nous reviendrons dans la dernière partie de ce journal avec notre invité François Durpaire. Mais pour l'heure, nous évoquons ce qui attend Donald Trump à son retour demain à Washington. Bonjour Nadine Epstein.
Bonjour.
Une semaine n'aura pas suffi à apaiser la tempête autour des soupçons d'ingérence russe dans l'élection présidentielle de l'an passé. Et les dernières révélations de la presse américaine semblent impliquer désormais un proche parmi les proches de Donald Trump, son propre gendre Jared Kushner.
Et le FBI s'interroge sur la nature de la série de réunions qu'a eu Jared Kushner avec des hommes politiques et d'affaires russes, notamment quel lien le gendre du président américain a-t-il tissé en rencontrant l'ambassadeur de Russie aux États-Unis en décembre dernier à la Trump Tower. Les enquêteurs qui cherchent à vérifier s'il y a eu ingérence russe dans l'élection présidentielle américaine soupçonnent le proche conseiller de Donald Trump de savoir des choses importantes sans toutefois parler de délit. C'est maintenant le procureur spécial Robert Mueller qui est chargé de l'investigation pour prouver si oui ou non l'entourage du locataire de la Maison Blanche a passé une forme d'alliance avec le gouvernement de Moscou. Pour l'instant, c'est l'ancien conseiller à la sécurité nationale, Michael Flynn, qui est au cœur de la tempête. Il est accusé d'avoir reçu de l'argent non déclaré de la part de Russes, mais il refuse de parler et de fournir des explications sur ses liens avec Moscou. L'ancien directeur de campagne de Trump, Paul Manafort, est lui aussi touché par l'enquête. Et aujourd'hui, selon ces révélations de ces deux médias américains, c'est maintenant un membre qui appartient au premier cercle de Donald Trump qui est visé, ce qui accentue les suspicions. Depuis le début de l'affaire, le président américain nie tout rapport avec la Russie. Il a jugé même les enquêtes menées par le FBI et par le Congrès de chasse aux sorcières. Quant à l'avocat de M. Kushner, il cite et il précise, je cite, que son client s'était déjà volontairement proposé de partager avec le Congrès tout ce qu'il sait de ses rencontres et il en fera de même pour toute autre enquête. Fermez les guillemets.
Merci à vous Nadine Epstein et nous saluons l'invité de cette édition. Bonjour François Durpaire.
Bonjour, merci de votre accueil.
Trump retrouvera la Maison Blanche demain, en tout cas dimanche, avec le retour donc de cette longue semaine diplomatique en Europe et au Proche-Orient. Et il va retrouver donc toute cette affaire qu'il fragilise très, très sérieusement. Il y aura l'audition lundi devant le Sénat de l'ancien directeur du FBI, James Comey, qui avait été limogé alors qu'il était en charge de l'enquête russe. Il a vraiment du souci à se faire pour son mandat, à votre avis, Donald Trump ?
Sur le plan de l'enquête, oui, c'est très grave. Il y a deux affaires. Il y a le Russiagate, c'est-à-dire ce soupçon de collusion entre les proches de Donald Trump, voire Trump lui-même, et les proches de Vladimir Poutine dans la campagne américaine. Est-ce qu'il y aurait un lien entre les deux ? De quelle nature ? Et puis il y a une autre affaire qui est l'affaire Comey, c'est-à-dire l'éventuelle obstruction à la justice. Est-ce que Donald Trump a essayé d'interrompre l'affaire en demandant à James Comey, eh bien, simplement de laisser tomber cette affaire. Donc c'est l'affaire en elle-même qui est une infraction plus grave que celle du Watergate en 74, où il s'agissait d'un espionnage du parti adverse, qui est grave quand même. Mais là, il s'agit d'intervention d'un pays étranger dans le cours du processus électoral de la démocratie américaine. Mais ce qui est grave également, c'est cette menace d'obstruction à la justice. Est-ce qu'il y aura impeachment ? Pour le moment, vous savez qu'on n'en est peut-être pas là parce que l'impeachment était un processus politique, c'est pas un processus judiciaire. Les juges en la matière seront les sénateurs. Il faut que la Chambre des représentants décide de ce procès devant le Sénat. Et pour le moment, évidemment, la grande différence avec 1974, c'est que la Chambre des représentants et le Sénat sont à majorité républicaine.
D'accord, on va développer tous ces points. On reviendra avec vous donc dans la séquence interview pour évoquer le bilan, si l'on peut en tirer un, de la semaine diplomatique de Donald Trump. Mais nous restons aux États-Unis où la nuit dernière a vu l'exécution du condamné à mort Tommy Arthur, 75 ans dont 34 à attendre dans le couloir de la mort. Il avait été condamné à la peine capitale pour meurtre dans l'Alabama, mais il avait réussi par 7 fois à repousser l'exécution. La nuit dernière, la Cour suprême américaine a finalement rejeté son 8e recours. La mort de Tommy Arthur porte à 12 le nombre d'exécutions dans les prisons américaines depuis le début de l'année. France Culture, midi 40. Le Pentagone refuse pour le moment de confirmer le bilan de ses frappes aériennes l'antenne de la coalition internationale contre Daesh frappe sur la ville syrienne de Mayadin, menée jeudi, et qui, selon l'ONG Observatoire syrien des droits de l'homme, aurait fait au moins 35 morts parmi des civils syriens et marocains. Les bombes visaient des immeubles d'habitation où vivaient des familles de combattants djihadistes. Le Pentagone qui a tout de même reconnu cette fois, 2 mois après les faits, avoir commis la pire bavure militaire depuis le début de la guerre contre Daesh. Des faits qui remontent à la mi-mars, à Mossoul, en Irak, le fief assiégé du groupe État islamique, où un bombardement américain avait tué 105 civils. Valérie Crovin.
Oui, l'armée américaine a effectivement admis que la frappe de la coalition, qui est placée sous son commandement, a déclenché accidentellement des explosifs qui, d'après le Pentagone, avaient été placés par les combattants de l'État islamique dans le bâtiment. Selon le résumé de l'enquête militaire, le bombardement visait au départ 2 snipers de Daesh. Les forces irakiennes qui se trouvaient à 100 mètres avaient demandé un soutien aérien, mais elles ignoraient que des dizaines de civils étaient dans la maison. Par ailleurs, la météo était mauvaise ce 17 mars, ce qui a empêché les drones de prendre des images qui permettent ensuite d'affiner une frappe. Quand la bombe a été larguée pour éliminer les snipers, elle a déclenché une énorme explosion, ce qui a entraîné l'effondrement du bâtiment. L'État islamique aurait piégé délibérément la maison, selon le général américain qui a conduit l'enquête sur place avec le renfort d'experts en armement et en génie civil. Ce même général n'a pas exclu de proposer aux familles des victimes une indemnité du Pentagone. En marque de sympathie, a-t-il dit, c'est le prix du sang. Le bombardement du 17 mars porte à 501 le nombre de morts civiles reconnus par la coalition anti-djihadiste en Irak depuis le début des opérations, mais le bilan réel est certainement beaucoup plus lourd. Ainsi, un collectif de journalistes basé à Londres estime que les victimes civiles ont fortement augmenté depuis que Donald Trump est devenu le chef des armées, car contrairement à son prédécesseur Barack Obama, il a délégué énormément de pouvoir à ses généraux qui décident de mener les frappes.
Valérie Crova, merci pour ces précisions. L'actualité internationale dans la région, c'est également cette attaque menée contre la minorité copte en Égypte. Une attaque qui a fait 23 morts et qui a été menée ce matin dans la province de Minya, à environ 200 km au sud du Caire. Attaque qui a fait également 25 blessés au moins. La communauté copte, en Égypte, ce sera le sujet du magazine de la rédaction de France Culture à partir de 17h ce soir. On a eu tendance à l'oublier forcément ces derniers jours après la mort de 22 personnes lundi soir dans l'attentat de Manchester. Mais la Grande-Bretagne est appelée aux urnes dans 2 semaines. Élections législatives anticipées qui avaient été déclenchées, on s'en souvient, par Theresa May. La campagne avait été mise entre parenthèses d'un commun accord entre les travaillistes et les conservateurs. Et nous retrouvons à Manchester notre envoyé spécial Marie-Pierre Véraud. Marie-Pierre, la période de réserve et d'union nationale a officiellement pris fin hier. Reste à savoir à quel point le drame de la Manchester Arena va peser sur la fin de campagne.
Eh bien, c'est toute la question. Cet attentat va-t-il changer la donne? En tout cas, d'ores et déjà, il influence le débat politique. Ces élections devaient porter sur le Brexit. C'est la sécurité qui domine. En tout cas, aujourd'hui, Jeremy Corbyn, le leader travailliste, en a fait son fer de lance pour cette reprise de la campagne. Il adopte une posture offensive, critique les coupes budgétaires qui affectent la police, accuse Theresa May, lorsqu'elle était ministre de l'Intérieur, d'être responsable d'une chute drastique du nombre de policiers sacrifiés sur l'autel de l'austérité au détriment de la sécurité. Mais surtout, ce qui alimente la polémique, c'est le lien qu'il fait entre les attentats sur le sol britannique et la politique étrangère, estimant que l'engagement de la Grande-Bretagne en Irak, en Syrie, en Afghanistan, en Libye, dans des guerres étrangères, nourrit ce terrorisme. Corbyn avait d'ailleurs voté contre ses engagements à l'étranger. Il nous faut reconnaître, dit-il, que cela ne marche pas. Des déclarations qui entraînent une levée de boucliers chez les conservateurs, vous l'imaginez. Il se trompe, rétorque le ministre de la Sécurité, Ben Wallace. Ces gens haïssent nos valeurs, pas notre politique étrangère. Et Theresa May de juger que la Grande-Bretagne serait moins en sécurité avec Corbyn. Mais ce dernier a aussi choqué dans ses propres rangs les plus modérés comme Tony Blair. Quant à l'ancien leader des libéraux-démocrates Paddy Ashdown, il met en garde de ceux qui voudraient politiser les terribles événements de Manchester pour en tirer un avantage. Il n'est pas dit en effet que ce discours profite aux travaillistes. Ils avaient gagné des points en mettant en difficulté Theresa May sur les programmes sociaux, sur la la santé. Jeremy Corbyn prend d'évidence un risque en s'éloignant de ses fondamentaux pour s'avancer sur le terrain glissant de la sécurité. Car si les électeurs votent sur cette question-là, sur le leadership, il y a de fortes chances que cela profite à Theresa May, qui semble avoir, depuis l'attentat de Manchester, interrompu sa baisse dans les sondages.
Marie-Pierre Vérot avec les moyens techniques de Pierre Quintard. Merci à vous deux en direct donc de Manchester. Nous en venons à présent à l'actualité française et dans la torpeur d'un pont de l'Ascension, l'écho atténué d'une affaire qui devrait reprendre de l'ampleur dès la semaine prochaine. Elle concerne cette affaire le ministre de la cohésion des territoires, Richard Ferrand. Le Canard Enchaîné nous apprenait mercredi que sa femme avait acquis en 2011 un immeuble pour le louer aux mutuelles de Bretagne, dirigé par son époux, donc Richard Ferrand. Député En Marche du Finistère, très proche d'Emmanuel Macron, a aussi employé son fils pendant quelques mois comme assistant parlementaire. Autant de pratiques qui devraient être interdite par la prochaine loi de moralisation politique annoncée par ce même gouvernement. Pour le chef de file des socialistes à l'Assemblée, Olivier Faure, il y a là un hiatus pour le moins que l'équipe Macron va devoir éclaircir.
L'exigence d'exemplarité est aujourd'hui totale. Et donc, ça suppose, y compris sur le plan éthique, d'avoir toutes les qualités requises. Et ce que l'on peut reprocher à Richard Ferrand, c'est d'avoir été parfois très dur pendant le Penelope Gate, d'avoir expliqué qu'on ne pouvait pas salarier ses enfants, qu'on ne pouvait pas avoir salarié sa propre femme, et de découvrir ensuite que ces pratiques-là peuvent avoir aussi été les siennes. Donc, l'intérêt du nouveau chef de l'État, c'est de faire en sorte que de montrer que, effectivement, derrière l'affichage d'un nouveau monde, il n'y a pas en réalité tout le vieux monde qui s'est installé. Je ne suis pas là pour donner des leçons. Je dis simplement qu'il y a aujourd'hui un soupçon qui pèse sur l'éthique de Richard Ferrand. Et pour l'instant, ces simples dénégations ne suffisent pas à rassurer qui que ce soit. Et donc, on ne peut pas avoir mené une campagne tombeau battant en expliquant que désormais les choses allaient changer et en même temps consacrer à des postes importants des gens qui, visiblement, n'ont pas toujours mis en accord leurs paroles et leurs actes.
Le socialiste Olivier Faure au micro de BFM TV ce matin. Elle s'appelle Solibacillus calami. Je parle à présent de cette bactérie inconnue sur Terre qui vient d'être découverte dans la Station Spatiale Internationale, soit à 400 km au-dessus de nos têtes. Un passager clandestin dans l'ISS. Pas de panique, a priori la bactérie n'est pas d'origine extraterrestre. Explication sur cette découverte avec Olivier Sangui de la Cité de l'Espace à Toulouse.
La recherche de cette bactérie se fait grâce à un programme d'études justement des bactéries à bord de la Station Spatiale Internationale. Parce que là-haut, les astronautes vivent en circuit fermé. L'air est recyclé. Par exemple, ils boivent leur urine recyclée. Donc on fait très attention parce que les milieux fermés sont très favorables au développement des bactéries. Donc sur Terre, on a examiné un des filtres à air de la Station Spatiale Internationale qui est resté là-haut pendant 3 ans. Et un chercheur du Jet Propulsion Laboratory, un laboratoire de la NASA, a trouvé une bactérie qu'on ne trouve pas sur Terre. Alors, ceci dit, il ne pense pas que c'est quelque chose d'extraterrestre. Ce qui peut s'être produit, c'est que c'est une bactérie qui a muté là-haut parce qu'on sait que les bactéries ont des mutations plus rapides en impesanteur. C'est pour ça qu'on utilise d'ailleurs la Station Spatiale Internationale pour des recherches sur les bactéries. On a récemment envoyé là-haut une bactérie qui est très dangereuse pour voir comment elle allait muter là-haut, ce qui permet de prévoir les mutations qu'elle aura sur Terre et donc mieux nous protéger.
Ça veut dire qu'on est sûr qu'elle ne vient pas de l'espace, c'est ce que vous nous dites?
C'est très très peu probable. Une des hypothèses favorisées par l'équipe des scientifiques, c'est qu'elle a été amenée par un des vaisseaux cargo, qu'elle a survécu au vol dans l'espace sur orbite pendant 2-3 jours, le temps que le cargo arrive vers la station. Et là, c'est très intéressant parce que si on identifie des bactéries qui résistent au milieu de l'espace, quand on va envoyer des sondes, par exemple vers Mars, eh bien, on sait qu'il faut faire attention à ce genre de bactéries parce qu'elles pourraient survivre au voyage et qui sait contaminer la planète rouge. Voilà. Donc, c'est une recherche qui a plusieurs avantages pour nous, pour le futur de l'exploration spatiale aussi.
Une enquête et des propos recueillis par Nathanaël Charbonnier. À midi passé de 49 minutes, comme promis, nous retrouvons l'invité de ce journal, François Durper, historien spécialiste notamment des États-Unis. On revient avec vous sur la semaine que termine aujourd'hui Donald Trump, qu'il terminera demain en tout cas au sommet du G7 en Sicile. Ça avait commencé le week-end dernier en Arabie Saoudite, ça s'est poursuivi en Israël, en Palestine, à Rome, chez le pape François, à Bruxelles, au sommet sommet de l'OTAN et donc à présent Taormina, donc en Sicile, avec les dirigeants du G7. François Durper, si on prend les choses dans l'ordre, Riyad, accueil princier, centaines de milliards de dollars de contrats signés, un grand discours sans véritable accroc sur l'islam et la géopolitique. Ça nous a appris quoi, selon vous, sur la doctrine Trump en terre arabo-musulmane?
Il y a deux choses à retenir. D'abord, la rupture géostratégique avec Barack Obama, c'est-à-dire que la volonté pour Donald Trump de créer une sorte d'OTAN arabe avec un axe États-Unis-Arabie Saoudite, et donc on remet l'Iran à part. Ça, c'est la première chose, et on met dans cet axe Israël. Deuxième chose, c'est les 380 milliards d'accords, notamment en aide d'armement.
De contrats d'armement.
Ce qui est très important parce que il l'a traduit directement pour son électorat américain. Jobs, jobs, jobs. Ce sont
c'est
des
aussi
emplois.
America First, finalement, et, ça passe aussi.
C'est-à-dire qu'en fait, il avait tweeté avant de partir à l'étranger, je pars, mais c'est pour les intérêts américains. Donc son objectif, c'était vraiment d'expliquer à son électorat qu'il partait, mais qu'il était en quelque sorte celui qui allait rapporter des contrats, qui allait rapporter des emplois. Donc ce sont deux points. Et puis vous avez raison de souligner qu'il n'y a pas eu de gaffe notable, mais qu'en même temps, c'était pas très risqué. C'est-à-dire qu'il s'est adressé, regardez son discours dit au monde arabo-musulman, il était destiné aux dirigeants du monde arabo-musulman et non pas, comme le discours de Barack Obama en 2009, aux sociétés civiles, au peuple. Ça avait débouché, vous vous rappelez, en partie sur les printemps arabes. Là, il s'agissait de s'adresser uniquement à un club, comme il le disait pendant sa campagne, qui peut se fâcher avec des Arabes? Les Arabes qui m'achètent mes appartements 40 à 50 millions de dollars. Vous voyez, il y a de cet homme d'affaires toujours derrière ce président.
Vous l'avez dit, une comparaison à peu près incessante pendant toute la semaine, à chaque déplacement, à chaque mouvement, avec Barack Obama, son prédécesseur, dans les mêmes situations. Comment il s'en sort, Donald Trump? Il y a bien sûr l'anecdote du livre d'or de Yad Vashem.
Oui, amazing, oui. La comparaison est très nette, mais ce que je pense, c'est que c'est un... Vous savez, normalement, un voyage international, il est écrit en avance. Il y a un script, tout est écrit. C'est pas une scène d'improvisation.
Même avec Donald Trump, l'imprévisible.
Bien justement, c'est un peu plus compliqué avec Donald Trump. Donc tout ce qui a été de l'ordre bilatéral s'est plutôt passé correctement. Et pas de gaffe. Mais pas non plus de réponse. Les Israéliens n'auront pas de réponse sur alors l'ambassade plutôt à Tel Aviv ou plutôt à Jérusalem. Pas de gaffe, mais pas de réponse. Enfin, et puis sur le climat, on le voit, on va le voir cet après-midi. Je veux pas déjà déflorer le suspense, il y a très peu de chances pour qu'on ait une réponse ce soir ou demain sur le climat. Pourquoi? Parce que Donald Trump peut pas très clairement dire que la signature américaine ne compte pas. C'est pas possible. Même les conservateurs américains veulent pas que ça se passe vraiment comme ça. Et il peut pas non plus dire le traité de Paris, c'est formidable. L'accord de Paris, pardon, c'est formidable. Non, parce que il a fait campagne contre l'écologie, contre l'environnement, en disant que c'était contraire à l'économie américaine. Il a fait campagne dans le Wisconsin, dans l'Ohio, etc. Donc, deuxième chose, c'est Trump, celui qui n'est pas le président qui va se plier devant des injonctions internationales. Son ADN, il est là. C'est celui qui va rétablir les frontières et celui qui ne va pas s'en laisser compter par l'international. Donc, il peut pas non plus dire oui à l'accord de Paris. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il va sans doute partir comme ça et puis il va laisser le Sénat ne pas ratifier l'accord.
Donc c'est les autres qui font le travail à sa place.
C'est une hypothèse, hein,
on a l'impression, et c'est peut-être un peu contre-intuitif par rapport au programme avec ce déplacement, donc Proche-Orient, péninsule arabique. On a l'impression que c'est plus finalement face à ses partenaires internationaux du G7, de l'OTAN, que Donald Trump a eu la partie la plus dure à mener et qu'il l'amène encore.
C'est nécessairement la plus dure puisque c'est le test en multilatéralisme. Là, ce sont pas des relations bilatérales, donc c'est toujours plus difficile. On voit d'ailleurs au regard inquiet de son entourage, là, il peut peut se passer un peu plus de choses. Mais regardez la scène ce matin, tout le monde est arrivé à peu près en même temps et Donald Trump est arrivé après, seul. Alors, la deux hypothèses, évidemment, l'hypothèse sécurité. On sait que les services de sécurité américains sont encore plus vigilants que les autres et c'est très compliqué. Mais l'autre hypothèse, c'est qu'il tenait à cette image de solitude face au reste, G7. C'était pas un G7, c'est un G6+1. Et lui est face au reste du monde. Il faudrait pas penser que l'isolement, la solitude le dérange. C'est précisément l'image dont il a besoin au pays. Non pas pour séduire l'ensemble de l'opinion américaine, mais pour séduire son cœur d'électorat qui, soulignons-le, 120 jours après le début de sa présidence et en dépit de toutes les affaires, quand on leur demande « Est-ce que vous voteriez encore pour Donald Trump ?» Ils continuent à dire « Oui, nous voterions encore pour Donald Trump. »
Donc une tournée internationale qui était très clairement tournée également vers
la
scène intérieure. Merci beaucoup François Durper d'avoir été l'invité de ce journal. Je rappelle, vous êtes historien spécialiste de politique américaine, mais aussi de questions d'éducation, d'identité en France. Vous avez publié l'an dernier aux éditions du Nouveau Monde, le petit Trump illustré par l'exemple. Bon week-end de l'ascension.
Merci à vous.
Le temps reste très clairement à la mode estivale cet après-midi avec tout de même des averses possibles sur les Alpes et les Pyrénées. Orage également possible sur l'Aquitaine où il fera jusqu'à 34 degrés au plus chaud de la journée. Grand soleil partout ailleurs et des températures comprises entre 22 sur les côtes de la Manche jusqu'à 32 degrés à l'intérieur des terres. Cette édition était réalisée par Yacine Bouzard. À 17h, le magazine de la rédaction, je vous le disais tout à l'heure, nous emmènera avec Anne Fauquemberg auprès des Coptes d'Égypte. Et c'est Antoine Marette qui vous présentera le journal de 18h.